Non, 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 non. Écoute, là, franchement, là...
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
À une semaine complète sans parler avec Catherine Loubier.
Trop long.
Ah, c'était pas facile,
trop
ça.
Trop long.
On manquait de lumière dans le tunnel.
Oui, on a dit n'importe quoi.
Fait que là, m'a arrêté d'en parler, puis je vais ouvrir le micro parce qu'elle est là cette semaine, Catherine Loubier, à qui on est bien content de jaser une fois par semaine. Minimum, hein, Catherine?
Oui, absolument. Minimum.
Là, je sais pas c'est quoi tes autres engagements pécuniers, là, mais là, il va falloir que tu arrêtes ça. Là. Faut qu'on jase, nous autres. Écoute, puis il y a du stock en plus. On va commencer par chez nous. Un texte sur lequel je suis tombé en fin de semaine, Catherine, puis qui a fait le tour, un texte que tous les médias ont repris. Mais quand même, il y a eu une petite swing. Ça a commencé avec un titre qui disait une entente de défense canado-américaine mise sur pause. Et là, je le vois, c'est maintenant le titre, c'est « Trump se venge pour le discours de Davos de Carney en suspendant un accord ». Je suis pas certain que c'est si loin que ça, mais bref, c'est un expert qui dit ça dans le Journal de Montréal. Là. Mais quand même, la nouvelle en tant que telle, c'est quand même gros. C'est le traité de défense qui a été mis en place en 1940, en pleine Deuxième Guerre mondiale, entre les États-Unis et le Canada, pour la sécurité du continent nord-américain. Et là, tu as Elbridge Coolby, qui est le haut responsable du Pentagone, qui a dit « le Canada en a pas assez fait ». L'armée canadienne, c'est pas sérieux. On annule ou on met sur pause l'accord. Que penser de tout ça, Catherine?
C'est une commission permanente mixte de défense. Et il a ajouté dans sa publication X, il a fait ça par X, une carte du continent nord-américain avec le Canada, puis les États-Unis, puis l'Alaska, tout ça. Donc, ça, en plus, il faut le dire, là, en plus des allusions à la rhétorique canadienne que les Américains et que M. Colby n'aiment pas, la publication, sous sa plume, ce sous-secrétaire-là, contient un lien vers la vidéo du discours de Mark Carney à Davos. Uh-huh. Et donc, il y a vraiment une référence directe. Et c'est quoi? C'est un geste politique. Ce sont les Américains qui, par ce sous-secrétaire, disent « vous devez nous suivre, on peut être forts ensemble, mais ce n'est pas ce qu'on constate en ce moment. » Et donc, cette institution-là, quand on institue une commission, là, conjointe, comme pour gérer les Grands Lacs ou autres, c'est que les deux pays gèrent ensemble la défense, le lac, les Grands Lacs, etc. Donc, c'est 86 ans d'assurance à ce niveau-là qui vient de flipper. Ça devient un levier de négociation, peut-être pour USMCA et d'autres tractations entre les deux pays. Et le message qu'il lance, il dit, écoutez, parce que là, on pourrait se dire, ben voyons donc, le Canada a augmenté ses dépenses pour l'OTAN, là, pour la défense. Mais lui, ce qu'il dit, c'est pas tout d'investir en défense. Il faut qu'on investisse ensemble dans les mêmes priorités. Il faut que vous développiez vos minéraux critiques. Il faut que la production manufacturière nord-américaine soit priorisée. Il faut augmenter l'appartenance au continent. C'est sa stratégie continentale. Oui. On avait parlé, de ça sous vos ongles. Et donc, là, il dit, vous allez en subir un peu les conséquences.
Mais
vous allez devenir peut-être...
Je t'arrête parce que est-ce que c'est fou, ça? Tu sais, de dire, si on le fait, il faut le faire dans le même sens. Parce que je comprends qu'on a atteint, je pense, c'est 3% là, du PIB en matière de défense. On parle aussi beaucoup de l'espèce de mouvance.
Oui, je vais faire le tour.
OK.
C'est pas suffisant pour lui. Lui, il a dit dans son tweet, un Canada fort qui priorise la puissance dure plutôt que la rhétorique serait à l'avantage de tous. Ça veut dire... Changez votre approche, là, parce que là, vous êtes en train de mettre tout ça en jeu. Et donc, c'est pas la perception qu'ils ont que nous sommes en train de prioriser une puissance dure plutôt que la rhétorique. Donc, ce qu'il dit, c'est fini le free ride au niveau de la défense. Le partage des responsabilités pour eux, c'est central pour assurer un continent fort. C'est pas ce qu'ils perçoivent que le Canada est en train de faire. Le Canada est en train de dire, nous, on est en train de diversifier, notamment avec la Chine et l'Europe.
Oui.
Et pour les États-Unis, quand ils entendent ça, ils se disent « OK, donc leur priorité numéro un, ce n'est plus l'alignement du Canada avec les États-Unis, ce n'est plus de faire ensemble qu'on est une puissance continentale. Hein? » Et bien sûr, on continue à être sous la protection conjointe des États-Unis. Ils sont beaucoup plus forts que nous, c'est la première puissance au monde. Mais le message, c'est « vous devez continuer d'être le vassal des États-Unis ». Donc, on peut voir ça en disant Raison de plus pour se diversifier et s'aligner avec l'Europe. Et on peut se dire, on peut se dire aussi, puis ça c'est mon opinion, voyons donc, on ne peut pas mettre en jeu notre union avec les États-Unis. Encore une fois, un président n'est pas un pays. Ça fait 150 ans qu'on commerce ensemble, qu'on a des forces conjointes dans un NORAD, entre autres, pour défendre notre continent, notre Arctique, toutes les côtes de la mer jusqu'au ciel. Mmh. Et donc, voilà. Est-ce que là, l'avocat du diable dira, Mark Carney a investi, a atteint l'objectif du 2 % du PIB consacré à la défense, ce qui est exigé par l'OTAN, puis a annoncé une cible de 3,5 d'ici 2035. Mmh. On investit, par exemple, là, je vais vite, mais 55 milliards pour construire 15 destroyers de pointe. Ça, c'est Stephen Harper qui avait annoncé cette stratégie de construction navale. Monsieur Carney a annoncé l'acquisition de 12 nouveaux sous-marins. On va avoir notre première tranche de commande de F-35. C'est des chasseurs qui sont fabriqués par Lockheed, le manufacturier américain, exactement. On augmente notre présence dans l'Arctique, etc. Qu'est-ce qui manque? C'est le narratif. Le narratif, les Américains ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas que les États-Unis, que le Canada ne priorise pas la défense du continent, ne priorise pas leur partenariat de défense avec les États-Unis et soit un peu éparpillé partout dans le monde. Et là, c'est vraiment un signal politique, une lumière rouge qui s'allume en disant vous devez changer votre narratif, sinon ce serait contre nature de continuer avec cette commission permanente, puis peut-être d'autres choses. C'est un premier pas. Donc, c'est un premier pas à un niveau de sous-secrétaire qui est pas rien. Et encore une fois, c'est pas juste des gestes, c'est le narratif de M. Carney par rapport à notre partenariat qui dure depuis tellement longtemps avec les États-Unis. Donc, qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, là? Voilà.
Parce que tu dis, tu sais, tantôt, j'ai accroché sur le fait que tu as dit, vous devez continuer à être notre vassal. Moi, je comprends qu'on, étant donné qu'on est plus petit, on est plus fragile, donc automatiquement, on devient un peu celui qui suit le gros en arrière. Je comprends ce bout-là, mais même dans la vie de tous les jours, tu as un partenaire. Bon, toi, tu as plus d'actions dans la compagnie, mais tu réalises que ton partenaire est en train de forniquer tranquillement avec d'autres, puis essayer de faire un plan pour pouvoir. Mais c'est sûr que tu seras pas content. Tu sais, moi, je comprends un peu quand même. Puis nous, on joue vraiment aux effarouchés depuis un certain nombre de mois, là, même plus d'un an. Puis à quelque part, moi, Catherine, je trouve qu'on joue un peu avec les poignées de notre tombe. Tu sais,
joue. Et je comprends qu'il y a une rhétorique. Je comprends que les États-Unis ont changé leurs attitudes. Le président amène complètement une autre vision géopolitique. Le président fait des moves qui dérangent. Je comprends tout ça, mais il faut voir à long terme, encore une fois, un pays n'est pas un président. Et de se découpler des États-Unis de cette manière-là, ça a des conséquences. Et à un moment donné, tu sais, quand on crie au loup, on se fait prendre, là. Mmh. Donc, c'est pas juste des mots. Les mots que M. Carney utilise, ça a des conséquences.
Mmh. Et on me dit aussi, puis c'est vrai, dans les cibles d'atteinte là, pour l'armée, pour les investissements en dépenses. Ouais. On parlait du 2 % Maintenant, on dit que ce serait plus 3 puis même qu'on pousse peut-être pour atteindre 5 % Donc déjà là, on aura du rattrapage.
Oui, mais les Américains, ce qu'ils disent en fait, c'est est-ce que vous allez investir tout cet argent-là pour défendre le continent avec nous ou pour aller vous allier avec l'Europe ou d'autres pays pour votre arsenal militaire? C'est ça la question.
C'est une bonne question.
C'est une bonne question.
C'est une très bonne question. Il y a les autres affaires aussi qui sont passées, des fois, je trouve, un peu sous silence, comme cette fuite d'un rapport sur la défense la semaine dernière, où on a appris dans certaines cohortes de nouveaux officiers. Donc ça, c'est des gens qui vont leader les soldats, c'est des gens qui sont appelés à devenir des leaders dans la défense canadienne. Bien, il y avait des cohortes où il y avait le trois quarts des étudiants qui n'avaient même pas la citoyenneté canadienne. Ça, je veux dire, ça vient aux oreilles des Américains, là.
Mm-hmm.
C'est toutes des choses qui font que notre armée est encore, des fois, je trouve, un peu pas sérieuse.
Oui, mais bon, d'un autre côté, notre armée, sont en recrutement plus que jamais. Donc, et M. Carney a financé aussi certains pans de, disons, du côté plus ressources humaines de l'armée. Donc, il y a quand même un effort, puis il y a quand même un recrutement qui est augmenté au niveau de l'armée canadienne. Oui, oui. Mais oui, effectivement, ça peut être un irritant. Hein? C'est certain, surtout pour l'administration qui est à la Maison-Blanche présentement.
Des fois, on dirait qu'on fait exprès. J'aime ça te parler, Catherine, aussi, parce qu'on va toujours faire une petite saucette aux États-Unis. Puis tu m'as présenté, tu m'as introduit Spencer oui. Pratt. Puis là, depuis que tu m'as parlé de ce gars-là, je me ramasse à aller voir ses vidéos de campagne avec l'intelligence artificielle complètement malade. Là. Le gars vole à travers la ville, puis il a même fait une espèce de parodie de Star Wars où c'est Bassem qui est déguisé en Darth Vader, puis qui dit « Nous devons les anéantir ». Tu sais, c'est très théâtral, puis c'est exagéré, mais c'est sûr que ça colle. Puis là, ben, Spencer Pratt, est-ce qu'il y a des enjeux présentement? Parce que là, on arrive au cœur de ce combat-là.
Oui. Il monte en popularité. Donc, la satire qui est utilisée avec l'intelligence artificielle, ça marche. Et ça force Mme Bass, qui est une politicienne expérimentée, et la socialiste, là, qui descend de plus en plus dans les sondages, à se positionner sur des enjeux qui n'étaient pas sur le menu pour l'élection. Hein? Les tentes dans la rue, les feux, le crime. Donc, il a complètement changé le débat. Et les vidéos sont publiées par une partie prenante externe à sa campagne à lui. Donc, ça, c'est brillant aussi. Mais bref, tout le monde l'associe, puis il le retweet et tout ça. Alors oui, effectivement.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que dans le fond, il y a une compagnie de marketing qui fait ses...
C'est différentes personnes. Okay. C'est différentes personnes, puis il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs de films ici, évidemment, puis de gens de l'industrie. Donc, c'est différentes personnes qui produisent et qui publient.
Okay.
Et c'est important parce que donc, c'est pas payé et soutenu par la campagne de Spencer Pratt, mais c'est promu par lui, tantôt en Batman, tantôt en Luke Skywalker, puis tout dernièrement, excellente AI du Fresh Prince of Bel-Air, parce qu'il s'est fait attaquer un peu sur le fait qu'il avait dit qu'il vivait dans son Airstream et finalement, il vit temporairement, sa femme, ses enfants, Santa Baba, hein, et dit, lui, écoute, peu importe où je vis plus chez nous, j'ai plus de maison, elle a brûlé. Alors là, il rit un peu de ça en disant, bon, ben je déménage à Bel-Air avec son Airstream. Et ça, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il connecte par l'émotion. C'est très authentique. C'est une honnêteté très brute, hein, avec quand même des messages très disciplinés sur des thèmes précis. Donc, il y a une trame de fond qui est excellente pour quelqu'un qui a fait des campagnes électorales, d'attaque qui utilise cette satire-là. Donc, il y a de la vérité dans chacun de ces vidéos-là qui parfois vont trop loin. Là.
Hein? Oui, mais sais-tu, quand ça va trop loin, il me semble quelqu'un d'intelligemment composé, là, tu sais, je veux dire, on le voit, moi j'ai éclaté de rire. Là. Tu sais, quand je veux dire, dans la vidéo, ils disent, puis là, voyons, le gouverneur, le Newsom, tu sais, le Palpatine Newsom, puis Darth Vader Bass qui ont fait ça, Monsieur le Président, puis là, tu sais, tu vois les gens qui meurent dans la rue, tu sais, puis je le sais que c'est exagéré, mais on le sait que c'est exagéré. Ça le rend quasiment sympathique.
Mais ça fonctionne pour l'instant. Je peux vous dire que, puis c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai discuté avec Jenny Byrne qui a fait 3-4 campagnes électorales pour Stephen Harper.
Ouais.
Ça va durer un temps. Les gens vont se lasser de ça, mais pas maintenant. Puis sais-tu ce qui est génial, c'est que là, la campagne, c'est pas à propos des démocrates ou des républicains, c'est à propos des individus, c'est à propos des problèmes de Los Angeles. Et c'est à propos de... Ça crée une espèce d'urgence et ça met la loupe les échecs de l'administration Bass. Il y a même eu l'appui très important des Latinos, de l'Association d'affaires Latino, la semaine dernière. Et donc, le narratif, finalement, gagne. Le narratif de Spencer Pratt est en train de gagner, puis drive la campagne. Hein? Il la drive. Et même si le médium change, les ingrédients d'une bonne campagne électorale sont là, bien en place.
Quelqu'un dit, mais dans quel parti y est Spencer Pratt? Parce qu'il se présente à la mairie de Los Angeles, puis souvent aux États-Unis, tu as des démocrates partout, là, mais c'est ça, lui, il est indépendant, dans le fond.
Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas de l'establishment, c'est un gars. C'est un gars dont la maison a brûlé, puis qui n'en pouvait plus, puis qui était déjà à ras-bord de voir ce qui est en train de se passer, comme bien des Angelinos qui étaient tannés de voir ce que devient la ville. Et là, ça a été, ça, on va le dire, un jeu de mots, la bougie d'allumage oui. pour qu'ils prennent le taureau par les cornes. C'est pas facile, là, se financer quand t'as pas de parti qui est là depuis longtemps, t'as pas de structure, t'as pas de machine en arrière. Ah, c'est quelque chose, ah, là.
C'est ça. Puis comme tu dis, il y a des gens qui viennent l'aider parce qu'ils trouvent que les idées font du sens. On peut dire que, bon, économiquement, c'est plus quelqu'un de droite là, qui veut ramener les villes à ses missions essentielles. Puis...
Ben, lui, il dit qu'il a toujours été démocrate et toute sa famille. Donc, il se positionne pas du tout comme un républicain. Il se positionne comme un gars qui en a assez.
Ouais. Mais c'est ça que ça donne quand même. Ça donne une espèce de virage où on va couper des dépenses superflues, où on va arrêter de donner de l'argent à tout le monde. On va... t'sais, ça sonne économiquement plus républicain. Peut-être pour le reste, je comprends.
Ben, c'est parce qu'on a un des États les plus productifs, voilà. 50 millions des États-Unis. Mais d'un autre côté, c'est des taxes à pu finir. Puis on voit bien que sur ces enjeux-là, c'est des échecs. On le voit dans la ville. Ça ne fonctionne pas, leur affaire. Alors, les gens disent, ben on veut du changement. Donc, il y a un facteur changement important aussi dans lequel ils puisent beaucoup d'appui. Puis il y a eu des appuis aussi de vedettes d'Hollywood. Il y a eu l'actionnaire principal des Lakers, il ramasse de l'argent aussi, là, beaucoup moins que Mme Bass, qui est une traditionnelle avec une grosse machine, mais quand même, c'est complètement étonnant.
Et là, pendant que LA, West Coast, est en train de revirer un peu vers une économie peut-être un petit peu plus rigide où on va revenir plus à l'essentiel, bien, East Coast, eux autres sont en train... C'est quand même capoté, hein? Tu sais, t'as deux côtes, deux visions qui sont quasiment en train de faire un trade, là. T'sais, donc, t'sais, on va envoyer tout ce qu'il y a de plus gauchiste vers l'Est, puis la raison économique va rattraper l'Ouest. Et au même moment, t'as Mme Dany qui débarque, et j'ai vu une vidéo, pour ne pas paraphraser Benjamin Tremblay, c'est lunaire comme analyse. Le gars dit « Hey, on a fait ça cette semaine, il n'y a plus de déficit à New York. On a claquement de doigts, tout est disparu, alors qu'on apprend que c'est l'État qui va payer. »
Oui, il a présenté un budget, M. Mamdani, le maire de New York, de 125 milliards à peu près, là, un petit peu moins. Et il avait hérité d'un déficit de 12 milliards, comme plusieurs villes à la sortie de COVID, les déficits traînaient, les queues de déficit traînaient encore, là. Mais effectivement, ça dépend beaucoup d'aide externe, ce qu'il a été capable de faire là. D'abord, la gouverneure a engagé à peu près... plusieurs milliards, là, 7-8 milliards
oui, 8
en mesure
milliards.
De réduction du déficit. Oui, c'est ça, 7,6-8 milliards. Et donc, il y a de l'aide directe là-dedans, il y a des services de garde comme il le voulait, puis il y a de l'aide aux écoles, etc. Puis il y a des nouveaux revenus, hein, la fameuse taxe sur les résidences secondaires. Faut noter aussi que ce budget-là, il va être approuvé ou non au conseil municipal le 30 juin. Donc, il n'est pas adopté. C'est un budget qui c'est pas un équilibre structurel. Hein, c'est un équilibre comme ça là, qui arrive avec ce que Mme O'Connor lui a promis. Donc, les fameuses taxes sur le pied à terre, ça peut y ramasser à peu près un demi-milliard par année. Ça, c'est pas approuvé encore par l'État.
Ouais.
La modification aussi de la taxe sur les business, sur les compagnies, il va réduire certains crédits pour des travailleurs autonomes. Bon, et puis au niveau de l'économie, il restructure le paiement des pensions pour les caisses de retraite municipales.
Il a coupé le temps supplémentaire des policiers. Ça, c'est beaucoup d'argent aussi.
Ah, c'est énormément d'argent. Là, on parle de quelques milliards, un petit peu plus de 2 milliards. Et il veut aussi s'attaquer en faisant des gains d'efficacité dans des agences puis réduire des heures supplémentaires. Good luck with that.
On n'a
pas encore vu.
Ouais,
c'est ça. Donc, voilà. C'est vraiment en apparence. Il y a au moins 10 décisions étatiques qui doivent se passer. Ce n'est pas approuvé au conseil municipal. Ça dépend beaucoup de l'État de New York. Il y a des dépenses qui sont reportées et non éliminées. Hein? Les paiements de retraite, c'en est un. Il y a des nouvelles taxes qui nécessitent l'approbation de l'État et puis des économies qui viennent de choses qu'il n'a pas réalisées, comme des coupures de postes puis des compressions.
Mais tu viens de me faire en moins de 2 minutes là, un tour quand même assez approfondi de toute la job, soit qui reste à faire ou soit qui est faite de façon bon, un peu, sans dire malhonnête, mais un peu, bon, on le dira pas, mais on fait juste reporter, mais ça n'existe plus, on n'en parle plus. Mais dans son vidéo... Tu sais, c'est de la magie, là. Il claque des doigts, 12 milliards, puis là, le chiffre devient zéro. Clac! Voilà, j'ai fait éliminer le déficit. On est reparti pour la gloire. Tout va bien. Moi, ce qui
m'illusion.
Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il y a vraiment des gens qui vont arrêter ça là puis qui vont dire « Wow, bravo, il l'a fait. » Tu sais, c'est
ben
ça
oui,
qui est capoté.
Parce que les gens, bon, on s'en est déjà parlé, là, certaines personnes sont un peu paresseux intellectuellement aussi. Là, hein? Ce ne sont pas des analystes. Là. Bon, ils reçoivent des nouvelles et puis ils regardent les grandes lignes. Puis,
on joue là-dessus énormément. Là,
oui, mais il y a peut-être des surprises qui vont s'en venir. Donc, très fragile comme équilibre budgétaire. Il tient pas les cordes de plusieurs des décisions qui vont mener à son équilibre budgétaire ou non. Et puis, on surveille le conseil municipal du 30 juin. Est-ce que ça va être approuvé ou pas, ce budget de New York?
À suivre. Catherine, merci beaucoup. Puis, saute pas des semaines comme ça. On s'ennuie.
Bien, quand j'ai saute, c'est soit parce que je suis dans un avion puis je peux pas faire autrement. Ben, c'est souvent ça.
Je te fais. Mais, on le sait que tu es occupé. On le sait que tu travailles fort.
J'essaie toujours de broder autour, mais des fois, ça marche pas. Vous m'avez manqué.
Bien, j'en vais à l'inverse. On se compte chanceux que tu nous parles de temps en temps. Merci beaucoup, Catherine.
OK, salut.
Salut, bye. Catherine bye. Loubier, toujours un beau tour d'horizon avec Catherine. On l'a su, ce qu'il y avait dans le budget. Là. 13-23, on fait une pause. Gary s'en vient.
Ouellet, bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.